Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
L'émission s'appelle Regarde ailleurs. Donc, Regarde ailleurs, c'est vraiment cette envie d'élargir son regard, sa vision sur le monde à travers des expériences de vie. Là, on se retrouve sur un festival qui s'appelle Le Grand Bivouac à Albertville, où je rencontre des réalisateurs, des photographes, des écrivains. Tu fais partie de cette catégorie-là, mais pas que, parce que tu es voyageuse aussi. Tu as passé plusieurs années à l'étranger en tant qu'expatriée, Laetitia Klotz, avec moi dans le van, dans le camion. Donc l'idée de cette rencontre, c'est vraiment ça, c'est de savoir qui tu es, ce qui t'a mis en mouvement. Donc on va peut-être recommencer il y a des années, bien avant tes bouquins, bien avant tes premiers voyages. Qu'est-ce qui fait que tu as eu un jour, peut-être petite fille ou peut-être adolescente, cette envie de te dire, tiens, moi je sais qu'un jour j'irai voir ce qui se passe en dehors de mes frontières.
Je crois, pour commencer, que c'est quand même lié à mes origines, puisque bon, j'en parle maintenant assez facilement. En fait, ma mère est vietnamienne. Mes grands-parents, mon grand-père venait du Nord, du Vietnam du Nord, et ma grand-mère du Vietnam du Sud. Et mon père, effectivement, est d'origine juive alsacienne. Donc, il y a des origines assez métissées. Et maman est née à Djibouti, donc n'a pas vraiment connu le Vietnam. Et elle est arrivée en France à 18 ans. Tout ça fait un mélange qui appelle à l'ailleurs. En fait, pour moi, c'est évident. Et je crois, très jeune, il se trouve que j'étais dans une école qui proposait un programme d'apprentissage des langues tôt, à 12 ans. J'ai commencé à apprendre l'espagnol. J'avais même commencé l'anglais à 8 ans. Et écoute, du coup, les langues m'ont amené à voyager, à partir très tôt à l'étranger. D'abord en Angleterre, en Espagne, et puis aux États-Unis, en Amérique centrale et après ailleurs. Voilà, le goût du voyage est venu très très tôt, je pense à 13-14 ans.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Au départ, quand j'ai commencé à voyager, c'était pour tout simplement le travail. Donc j'ai terminé mes études et puis je suis partie vivre un peu en Angleterre et puis en Espagne. Je travaillais en Espagne.
Études de quoi ?
Alors c'est assez... c'est pas linéaire, mais j'ai notamment fait donc, des études... Enfin j'ai fait au départ une prépa littéraire et puis après j'ai raccroché la fac d'espagnol. Donc je suis partie vivre en Espagne. Après j'ai raccroché sciences politiques à Bordeaux. Et finalement, voilà, j'ai commencé à bosser dans les organismes internationaux et puis en ambassade à Madrid. Et là, mon compagnon a eu une mission au Yémen et il m'a proposé de le suivre. Et j'ai pas hésité parce que le Yémen, je connaissais pas et je trouvais que ça faisait exotique. Et donc je l'ai suivi au Yémen. Ça a été ma première grosse expatriation. On a passé 3 ans là-bas. Et là-bas, ouais, ça a été, ça reste, le Yémen reste mon pays de cœur, mon premier pays de cœur aussi parce que j'avais 26-27 ans et que c'est un pays qui est complètement différent de l'idée qu'on peut en avoir en Occident. C'est un pays qui a une tradition de l'accueil immense. Quand on arrive là-bas, en tant qu'étranger, les portes nous sont complètement ouvertes. Et en tant que femme, j'avais autant accès au monde des hommes qu'au monde des femmes. Donc j'ai vécu des espèces d'alcôves de féminité très intenses avec mes copines yéménites et mes collègues de travail. Et puis en même temps, j'avais accès au mafrage le soir, enfin les après-midi avec les hommes. C'était très très riche pour ça. Au niveau de l'échange, bien sûr, on restait dans notre monde d'expatriés aussi parce qu'on reste des expatriés malgré tout. Et j'ai pas de prétention à dire que voilà, je me suis complètement mêlée à la population, mais il y avait une possibilité de l'échange très très grande parce que le peuple yéménite est très accueillant. Et aussi parce que c'est un pays absolument fabuleux, tant pour ses habitants que pour ses paysages et la richesse de son patrimoine culturelle qui est malheureusement très mise à mal depuis plus de 7 ans avec la guerre et l'emprise saoudienne. Alors je me suis un peu écartée de ta question sur l'Arabie Saoudite du coup.
C'est bien, on va rester un peu au Yémen. Donc là tu suis ton conjoint qui est parti vivre là-bas parce qu'il a eu une mission.
J'ai quitté mon poste pour le suivre. Donc au départ c'est un premier pas dans ma carrière de suiveuse en fait. Donc c'est compliqué, non mais c'est compliqué du coup après de se positionner parce que je le suis mais il faut que j'existe, je peux pas faire autrement. Je me trouve rapidement un travail dans les ressources humaines au Yémen. Bon, c'était pas du tout mon truc, j'y reste 3 mois et puis finalement j'ai trouvé un poste dans un journal de un magazine hebdomadaire local qui s'appelait le Yémen Today. C'était un mensuel en fait, c'était pas un hebdomadaire, c'était un mensuel, le Yémen Today, où j'écrivais des articles en anglais de société, des interviews, voilà. Et aussi je donnais un peu des cours de français et je prenais des cours d'arabe surtout. Et voilà, c'était un quotidien très agréable, très léger. Je passais beaucoup de temps dans la vieille ville, qui est une ville magnifique, la vieille ville de Sanaa. Et c'était encore un temps où le Yémen était doux.
C'est une vraie question, hein, cette notion de rencontrer quelqu'un, un des deux propose de partir à l'étranger. Pourquoi tu utilises cette expression de parcours de suiveuse et qu'est-ce que tu as envie de donner comme conseil à un couple qui part comme ça, s'expatrie dans un pays lointain, dans une culture différente, où l'un des deux suit l'autre?
Je pense que c'est une problématique assez compliquée de nos jours, parce qu'autant avant, faut le dire, c'était souvent les femmes qui suivaient les hommes. Et ça se faisait assez naturellement. Aujourd'hui, c'est plus compliqué parce qu'on a nos carrières, on a aussi nos volontés d'exister et de ne pas être uniquement mère au foyer. Ce qu'on redemande souvent aujourd'hui au conjoint qui suit. Et oui, c'est une réalité, j'ai suivi, mais il est important pour moi d'exister malgré tout par moi-même et de me trouver mon travail. Et donc, certes, c'est lui qui a le travail au départ, mais de moi aussi avoir une identité, de continuer à me construire, de faire ce que j'avais envie de faire. Et c'était toujours tourné vers l'écriture et la rencontre des gens, en fait. Donc lui me permettait ça quand même, je vais pas nier ça. Lui me permettait de voyager facilement, puisqu'il trouvait des opportunités. Et moi, il fallait que je me réinvente à chaque fois, donc c'était pas simple. Mais en même temps, j'ai toujours réussi à faire à peu près ce qui me correspondait. C'est-à-dire, en fait, ce que je cherchais, c'était d'aller à la rencontre des gens. Et pour ça, il y avait l'écriture, enfin, je veux dire, le journalisme ou l'enseignement. Et donc, j'ai toujours jonglé entre les deux.
Et l'écriture, c'était quoi? Alors, quand tu te retrouves au Yémen, c'est observer ce qui s'y passe et puis documenter ce que tu observes autour de toi, ou plutôt documenter ce qui se passe en toi. C'était quoi à quoi te servait l'écriture et qu'est-ce que tu posais, qu'est-ce que tu couchais sur du papier?
Ben, j'ai fait les deux, puisque je travaillais pour un magazine. Donc là, j'avais des missions. On m'envoyait interviewer une femme, un homme, parler d'un événement. Voilà. Donc là, je documentais effectivement ce qui se passait autour de moi. D'un point de vue plus personnel, je continuais à tenir mes chroniques de ce que je voyais, puis de ce que je ressentais aussi, bien sûr. Parce que, mine de rien, en expatriation, il y a aussi pas mal de... Enfin, moi, je suis peut-être assez mélancolique, donc il y a pas mal de vagues à l'âme, d'interrogations sur qu'est-ce qu'on vient faire ici, qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'on apporte, à quoi je sers, ces choses comme ça, ouais, ouais.
Et donc là, l'aventure dure 3 ans, hein, c'est ouais. Ça, 3 ans de Yémen avant de changer de pays, elle est expatriée ailleurs, c'est ça, toujours
Ouais, en fait, le contexte a été assez particulier puisqu'on a été rapatrié du Yémen peu avant le printemps arabe. Ça commençait à sentir mauvais. Et moi, j'avais mon fils. À l'époque, j'avais un enfant de 1 an. Et quand il a eu 1 an, à peu près, un peu au-dessus de 1 an, on a été rapatriés, lui et moi, puisque la situation sécuritaire commençait à se dégrader. Et la société qui employait mon époux a préféré rapatrier les familles avec enfants. Donc je suis rentrée en France et j'ai attendu. Mon mari, lui, s'est empressé de trouver une autre destination et ça a été l'Arabie Saoudite. À ce moment-là de ma vie, je me sentais incapable de vivre en France. J'étais absolument inadaptée à la France.
Est-ce que tu peux expliquer pourquoi ?
Je pense que ça faisait quelques années que j'avais pas habité en France, que je voyageais et que j'avais pas mes repères. Je savais pas à quoi j'aurais pu servir en France, qui j'aurais pu aider, ce que j'aurais pu faire, quel travail j'aurais pu trouver. Et ça me paraissait beaucoup plus simple de trouver ma place dans la société à l'étranger. Voilà, bon, il se trouve que ça a été l'Arabie Saoudite et que ça a été assez compliqué.
Et ça, comment est-ce qu'on choisit? Donc vous êtes en couple à ce moment-là, comment est-ce qu'on choisit sa destination? C'est l'opportunité du travail ou c'était plutôt une envie de partir en Arabie Saoudite et de se dire, tiens, ben, on va trouver un boulot là-bas?
Non, il n'y avait pas d'envie, il y avait certainement un peu de naïveté. Et voilà, je venais de vivre ces 3 ans au Yémen qui s'étaient très très bien passés, 3 ans et demi. Et les Yéménites, quand on leur a dit « ouais, on part en Arabie Saoudite », enfin mes amis Yéménites, quand je leur ai dit ça, ils m'ont dit « mais Laetitia, t'es folle, tu vas être très malheureuse là-bas, c'est pas du tout la même chose qu'ici ». Mais on me l'avait un peu dit pour le Yémen déjà, donc je voulais pas y croire. C'était, ouais, c'était une aventure, donc j'y allais. Il y avait le côté un peu aventure.
Et en même temps, quand tu pars, rien ne t'oblige à y rester. Mais tu es quand même resté là-bas 4 ans, donc j'imagine qu'il s'est quand même passé des choses intéressantes pour y rester aussi longtemps.
Ouais, c'est compliqué, puis c'est compliqué aussi de... C'est compliqué d'arrêter le voyage alors qu'il est programmé pour durer, parce qu'il y a une notion d'échec, et moi je voulais pas échouer. Donc je suis restée 3 ans et demi, même si j'ai vécu les premières années difficilement, parce que l'Arabie Saoudite c'est un pays très différent du Yémen, effectivement c'est vrai, et que j'ai vécu beaucoup de frustration, notamment la première en fait à laquelle je pense en te parlant, que j'ai pas beaucoup dite jusqu'à maintenant, c'est la langue. Au Yémen, j'apprenais l'arabe, je le parlais dans la rue avec mes copines à un niveau, bon je suis enseignante de langue, donc à un niveau assez quand même A2, B1, enfin qui est pas extraordinaire, mais un petit niveau, et je pensais, il y avait aussi ça dans ma tête, c'était continuer mon apprentissage de l'arabe en Arabie Saoudite, et ça n'a pas été possible à cause du contexte du pays en lui-même, de la ville dans laquelle nous vivions, qui n'était pas Riyad, mais qui était Al-Jubail, qui est une ville de la province Est, où il y avait peu de choses encore, c'était peu développé. Et notamment, il n'y avait pas de cours d'arabe en dehors d'une école coranique. Et voilà, l'Arabie Saoudite, ça a été compliqué en fait, parce que immédiatement, on a été parqués dans un camp pour expatriés, un camp Pand, et ça a été ma vie pendant 3 ans et demi. Ça a été ce camp-là. Ce que je raconte dans Intime Arabie, dans mon livre, ça a été mon besoin d'en sortir et ma quête de sens et ma quête pour sortir de ce camp et rencontrer des Saoudiennes.
Papai não chora, hora chegou, eu deixo o ninho, tanto fez que a hora chegou. Só quis pouco do seu amor, só pouquinho. Tanto fez que a hora chegou. Levo uma foto de mamãe sorrindo. Ela a única que te deu carinho, amor, assim. Papai, você não me programou. Foi delírio de uma noite de desamor. Uma transa simples que azarou seu destino. Foi você, foi quem me falou. Agora pego na sua mão, sorrindo. Digo que não quero te deixar sozinho na dor. Assim eu te perdoo, já passou. Não precisa se arrepender. Quando eu nasci, você chorou.
L'Arabie Saoudite, tu suis ton conjoint pour y rester dans une durée, tu savais que ça allait être plusieurs années. Hein, et donc là, fallait faire comme tu avais pu faire au Yémen, trouver une manière de t'intégrer et de pouvoir être toi-même. Et là, tu te rends compte que c'est pas facile parce que tu te retrouves isolée avec d'autres expats.
Exactement, et que tout ce qu'on me demande, c'est d'être femme d'expat, c'est-à-dire d'être une bonne épouse, femme au foyer qui s'occupe bien de ses enfants. On me donne tout le confort dont je peux rêver. C'est-à-dire qu'on était dans un camp, mais c'est un camp pour expatriés. Donc, il y avait trois piscines dans le camp. J'avais un appartement tout confort à l'américaine. Un terrain de tennis, je ne sais plus quoi, pas mal d'infrastructures. Mais on n'était absolument pas en Arabie Saoudite. On était fermé sur le royaume saoudien. Donc oui, là, tu es obligé de développer ton univers intérieur. Forcément, c'est un voyage immobile. Et je pense que l'Arabie Saoudite, ça a avant tout été un voyage vers moi-même, c'est sûr. Et j'ai pas le droit de travailler. Donc il faut que je trouve une façon de travailler, même si j'ai pas le droit de travailler officiellement. Et c'est là que je vais développer, que je vais reprendre mes études déjà pour vraiment devenir prof et enseigner, puisque j'imaginais pas non plus faire du journalisme en Arabie Saoudite, vu le statut que j'avais, vu la liberté que j'avais. J'ai commencé à donner des cours de français langue étrangère, j'ai repris mes études. Et je suis sortie en dehors du camp pour rencontrer des Saoudiennes, comme je pouvais. Parce qu'en Arabie Saoudite, il n'y a pas de lieu de rencontre, il n'y a pas de café. C'est un monde où les hommes et les femmes vivent complètement séparés. Il y a une vraie ségrégation hommes-femmes et expatriés saoudiens. Parce que nos deux mondes ne doivent pas rentrer en contact pour qu'on ne les influence pas avec notre culture, pour qu'il n'y ait pas de rencontre, en fait, pour qu'il n'y ait pas le danger de la rencontre. Après, je mets un peu des méboles, parce que là, je te parle il y a 10 ans. C'était il y a 10 ans.
Parce que là, ça fait penser à une dictature quand tu en parles, quoi. Cette envie de vouloir contrôler absolument la population et l'imposer des règles étatiques.
Bah, en fait, le royaume saoudien est un royaume complètement autoritaire, qui est essentiellement régi par les lois coraniques et la charia. Et oui, on peut dire que c'est une dictature. C'est un régime, en tout cas, oui, complètement autoritaire, où la femme a le statut de mineure à vie. C'est-à-dire que la femme n'a pas de droit ni de liberté. Elle est entièrement sous l'autorité de son père à la naissance, de son époux, de son frère, de son cousin, de son oncle, voire de son fils s'il n'y a plus de père. Voilà, c'est une réalité, la femme n'est pas majeure. Sauf, alors depuis un an, ça aurait changé légalement, enfin, au niveau de la loi. Après, dans les faits, c'est différent.
Mais comment tu fais, toi, Laetitia, te retrouver et accepter cette réalité-là qui est à l'opposé de ce que tu connais ici en France et sûrement de ce que tu nourris comme envie ou comme idéologie ?
C'est très bizarre, en fait, et je pense que c'est en Arabie Saoudite que je suis vraiment devenue féministe. Mais en même temps, c'était un apprentissage une prise de conscience des acquis que nous avons, nous, et dont nous n'avons pas forcément conscience. Et en même temps, une leçon de, je sais pas si on peut dire relativisme culturel, mais de prendre conscience que nos luttes ne sont pas forcément les luttes de toutes les femmes. Qu'on peut avoir nos convictions, mais que nos voisines n'ont pas forcément les mêmes convictions. Donc moi, il y a eu beaucoup de discussions avec mes copines saoudiennes où j'essayais de comprendre, leur demander si elles se sentaient entravées dans leur vie quotidienne par rapport à ce que je trouvais des trucs absolument révoltants. Et j'ai pas rencontré d'activistes. Dans le petit monde où j'ai évolué, j'ai pas rencontré d'activistes, mais il y en a, hein, il y en a. Mais les femmes que je rencontrais étaient essentiellement issues de la classe moyenne et elles avaient un discours assez conformiste. La réalité est que la plupart n'avaient pas connu autre chose et donc ne rêvaient pas d'autre chose. C'est, si elles en rêvaient quand même un petit peu. Mais de là à concevoir une possibilité de changement, c'était autre chose. Parce qu'elles n'avaient pas reçu l'éducation pour, peut-être. Et les femmes, encore une fois, que je rencontrais, n'avaient pas voyagé, n'étaient pas sorties du pays, n'avaient rien vu d'autre. Donc c'était compliqué d'avoir une conscience, une prise de conscience.
Mais toi qui as cette prise de recul, qu'est-ce qui te fait tenir aussi longtemps, 3 ans et demi, tu disais peur de l'échec, de finalement ne pas avoir réussi à partir ou rester longtemps à l'étranger. Mais quand une situation ne nous correspond pas, on a tendance à la fuir, non ? Enfin, je sais pas, comment tu as fait pour t'acclimater, pour t'accommoder à cette vie compliquée ? En tout cas, qui a l'air de l'être pour une femme française.
Je te dis peur de l'échec, mais c'est vrai. Je pouvais pas partir du pays sans avoir fait ma place sans être allée à la rencontre du pays. C'est pas possible de me dire « mince, j'ai mis le pied sur ce pays et j'ai pas réussi à le connaître ». Et je prétends pas l'avoir connu, mais il fallait que je trouve du travail. Officiellement, j'avais besoin d'être dans une institution qui me donne du travail et que je me fasse des copines saoudiennes. Et tant que j'étais pas parvenue à ça, je pouvais pas partir. Et de un, et de deux, la réalité, c'est-à-dire que j'avais des enfants, j'étais pas au... enfin, j'étais mariée et je concevais pas encore de vivre séparément de mon mari, mes enfants étaient en bas âge, je pense que je l'ai même pas formulé dans ma tête. Bien sûr, l'été je partais, je restais 2 mois en France, mais je concevais pas encore de vivre, de pas vivre autrement qu'en famille. Voilà, aujourd'hui la réalité a changé, mais à ce moment-là, j'ai une 30aine d'années et je crois que je suis quand même en train de construire ma famille et à ce moment-là, c'est important pour moi de vivre comme ça. Et honnêtement, je pouvais pas quitter le pays si j'avais pas des copines saoudiennes, quoi.
Excellent, ce besoin de créer du lien, donc c'était pareil au Yémen, où là tu étais vraiment entre les hommes et les femmes, hein, tu disais, tu pouvais vraiment côtoyer les deux mondes. Là c'était plus compliqué, mais t'as quand même voulu faire des copines saoudiennes. Le bouquin Intime Arabie, qui est publié chez Transboréal, donc ces 3 ans et demi, bah, tu les as mis au profit aussi de ta passion, hein, qui est l'écriture. Donc parle-nous un peu de ce projet, de ce livre, de ce qu'on va y découvrir.
Bah, tu me demandais l'écriture, quelle place elle avait, comment je la nourrissais. Et en Arabie Saoudite, j'ai eu beaucoup de temps pour moi, donc j'ai beaucoup nourri mon journal intime. Donc j'ai tenu une chronique quotidienne sur tout ce qui m'arrivait, tout ce que je vivais, tout ce que je ressentais et les rencontres que je faisais. Avec l'idée d'en parler un jour, de le sortir, d'en faire, si ce n'est un livre, au moins un article quelque part. Donc j'ai eu un premier article publié dans la revue 21. Sur une rencontre avec une de mes copines, une rencontre saoudienne très marquante. Voilà, donc ça a été relaté dans 21. Et j'ai eu envie d'aller plus loin, et à un moment, alors ça a mis du temps, hein, j'arrive pas à faire le calcul, mais peut-être 7-8 ans après avoir quitté l'Arabie Saoudite, je suis en Ouganda, donc voilà. Et je me dis, il faut quand même que je fasse quelque chose de cette aventure, de ce que j'ai dans mes carnets. Et je vais essayer de compiler tout ça. Et donc, je me suis donné une date de départ et une date de fin, je crois. Enfin, en janvier, je me suis dit, voilà, il faudrait qu'en juin, j'ai réussi à faire quelque chose. Et voilà. Donc, j'ai mis 6 mois pour rédiger un peu plus mon journal intime et essayer de trouver un fil conducteur. Au départ, je voulais pas parler de moi, en fait. Je pense que c'est ce qui m'a pris tant d'années. C'est que je voulais pas parler de moi, je voulais parler des Saoudiennes. Et rapidement, je me suis rendu compte que j'avais pas assez de matière, que je m'en sortais pas. Et je me suis aussi dit que c'était intéressant, ce serait peut-être intéressant d'avoir le point de vue d'une expatriée et de raconter aussi le camp. Parce que finalement, il se passait beaucoup de choses dans le camp quand on était la journée entre femmes, que tu vois, c'était un peu caricatural, mais le matin, on faisait au revoir à nos maris sur le pas de la porte, eux, ils partaient au travail dans leur jolie voiture, nos enfants partaient à l'école dans les jolis bus, et nous, les femmes, on restait dans le camp, et on avait notre vie de femme au foyer. Et je voulais aussi parler de ça. Donc, dans mon livre, il y a toute cette partie-là aussi. Il y a la partie avec les Saoudiennes, et il y a la partie des femmes dans un camp d'expatriés. Je trouvais que d'un point de vue sociologique, ça pouvait être intéressant.
Et donc ces femmes qui voient partir leur mari le matin sont toutes des expatriées aussi, ou il y a vraiment les deux, et des Saoudiennes et des expatriées? Non, t'es vraiment dans ce camp où tu côtoies que des expatriées, que des femmes expatriées qui ont un statut similaire au tien.
En fait, le camp était interdit aux Saoudiens. Ouais. Donc on est dans un îlot d'expatriés. Alors, il y a expatriés, îlot d'expatriés occidentaux, hein, on n'est pas du tout avec les Bangladeshis, voilà. Et dans ce camp tout confort où on n'a pas à se plaindre parce qu'on a tout pour être heureuse. Et honnêtement, beaucoup de mes collègues femmes ont été très heureuses pendant ces 3 ans. Et moi aussi, j'ai eu beaucoup de moments de bonheur. Je ne vais pas le nier parce que finalement, bon, il y a eu une lutte en moi-même pour accepter mon sort. Et en même temps, souvent, je me disais, bon, tu ne vas pas te plaindre, quoi, tu as tout pour être heureuse. Et aussi, il y a eu des belles rencontres entre expatriés. Il y a eu beaucoup d'échanges dans le monde des femmes. Alors, bah, on a fait ce que font toutes les femmes expats, hein. Y avait des coffee mornings, il y avait des trucs, des échanges de recettes, des échanges de bouquins, des cours de sport. Voilà, bon, moi j'ai eu du mal à me contenter de ça et à être heureuse. Mais tant que j'ai adopté une attitude critique et frustrée, j'ai pas pu être heureuse. Une fois que j'ai accepté mon sort, entre guillemets, ça a été plus simple. Une fois que je me suis ouverte aux autres femmes et que j'ai accepté de faire partie de ces cercles de femmes, ça a été plus simple pour moi.
Mais t'avais quand même cette détermination à faire des copines saoudiennes, donc dans ce camp très cloisonné. D'ailleurs, le mot camp me paraît hyper fort. J'ai du mal à imaginer qu'il puisse y avoir deux camps d'expatriés quelque part sur cette planète. Apparemment, si. Donc voilà, un camp muré, cloisonné. Comment tu fais pour avoir des copines saoudiennes?
Alors, on a le droit de sortir du camp. Mais dans le camp, on est dans une tenue occidentale. Quand on sort, déjà, une femme en Arabie Saoudite ne se promène pas seule. Les femmes expatriées le font de plus en plus. Moi, à mon époque, on le faisait peu. C'était mal vu. Et puis surtout, tu te sentais en insécurité parce que les hommes te dévisagent. Et quand tu sors, il faut revêtir la baya, donc cette espèce de long manteau noir assez informe. On n'est pas tenu de porter le voile, mais il faut mettre ce truc dégueulasse, quoi. Enfin, il faut dire les choses comme elles sont. Donc, j'étais réticente au début à me vêtir de cette serpillière. Mais je l'ai fait. Mon mari m'en avait acheté une sur un marché. Je crois qu'il avait pris du XXL alors que je suis plutôt un petit gamarit. Donc, c'était absolument informe. Et j'avais beaucoup de mal avec celle-ci. Puis un jour, je me suis prise en main et je suis allée faire une abaya sur mesure. Ce que je m'étais refusée à faire au départ parce que je voulais pas revêtir ce truc qui est une négation de la féminité, mais si moi-même je voulais vivre et sortir, il fallait que j'en ai une. Donc finalement, j'ai fait comme les saoudiennes, je me suis fait une belle abaya avec des jolies couleurs, un peu de broderie et je suis sortie et j'ai commencé à aller me promener parfois toute seule, parfois avec mes enfants, parfois avec des copines pour essayer de rencontrer.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Donc toi Laetitia, plus que voyageuse, tu es vraiment expatriée, hein, donc l'aventure de l'Arabie Saoudite va durer, je ne sais pas, peut-être le temps d'un mandat, je ne sais pas ce qui s'est passé, pourquoi vous avez fait le choix de partir?
Tout simplement, on n'a plus de travail, ni l'un ni l'autre, donc l'Arabie Saoudite s'arrête. Et moi, je fais une pause en France. Je crois que j'ai besoin de trouver l'endroit où je veux... J'ai toujours ce besoin de foyer, de trouver mes racines. Enfin, de trouver l'endroit où je vais planter des racines. Et finalement, je le trouve, puisque je m'arrête au Pays Basque. Et que j'y reste avec mes enfants. Mon mari, lui, il trouve une mission. Il repart en Indonésie pendant 2 ans. Je reste en France avec mes enfants. Et puis finalement, mon mari nous rappelle. Et on le suit à Singapour, 2 ans plus tard. Et là, j'ai trouvé du travail assez facilement. Bon, j'ai été prof au lycée français de Singapour. C'était une très belle expérience. Et surtout, j'ai réussi à m'investir dans une association qui venait en aide aux femmes maltraitées, aux employés de maison maltraités. On a passé 2 ans là-bas. Ouais. Mais encore une fois, je suis suiveuse. Donc, quand mon mari n'a plus de travail à nouveau à Singapour, j'ai dû, moi, tout perdre. Et arrêter. Enfin, j'avais un travail, mais mon travail était moins rémunérateur que le sien, donc il ne me suffisait pas pour vivre à Singapour. Il ne nous suffisait pas pour vivre à Singapour. Donc lui est parti en Ouganda, et j'ai fini par le rejoindre là-bas avec les enfants. Et il a fallu que je me réinvente en Ouganda.
Mais qu'est-ce qui fait comment tu vis ça intérieurement, le fait de suivre ton mari comme ça? Tu es d'accord avec ce choix-là? Ou est-ce que c'est un choix qui est raisonné parce que tu as encore cette envie de c'est peut-être cette vision de vivre ensemble, en famille, ou le côté économique était plus rassurant? Comment toi, en tant que femme, tu vis ça?
Honnêtement, je le vis mal à chaque fois. À chaque fois, c'est un déchirement, à chaque fois, c'est un deuil. Mais l'autre pays, le pays à venir, me fait toujours triper. En fait, il y a « Ah ouais, l'Ouganda, c'est la perle de l'Afrique. » Enfin, voilà, il y a les gorilles des montagnes, il y a les sources du Nil. Donc, à la fois, je suis triste de quitter un pays, mais je me projette dans l'autre pays et ouais, j'ai envie d'aller le découvrir. Jusqu'à un certain point. Parce qu'en fait, ta question, elle est assez pertinente parce qu'au bout d'un moment, je me suis essoufflée de construire et de laisser derrière à chaque fois. Et l'Ouganda, je crois que ça a été... la dernière épreuve où j'ai laissé tomber parce que, enfin, je suis allée en Ouganda et ça a été très très riche, mais j'ai vécu quelque chose de très très fort là-bas qui a été la création d'une radio, dont je te parlais, avec un collègue de l'Alliance française où je travaillais, on a monté une radio francophone. Ça a été presque le projet d'une vie à ce moment-là. Et j'ai dû le quitter aussi au bout de 2 ans parce que mon époux n'avait plus de travail à nouveau. Donc je suis restée un petit peu plus longtemps, mais pareil, financièrement, ça tenait plus, notamment pour payer l'école des enfants. Donc j'ai fini par rentrer en France. Et là, il y a eu le Covid aussi. Donc plein de choses qui nous ont fait tous nous interroger. Et voilà, moi, j'ai pris la décision d'arrêter d'être expatriée.
En tout cas, j'ai l'impression d'avoir devant moi une femme qui, cette fois, choisit d'écrire sa réalité.
C'est exactement ça. Ouais, je choisis et ça a été long. Voilà, j'ai 41 ans et ça m'a pris du temps. Peut-être qu'il fallait tout ce temps pour que je me trouve. Peut-être qu'il fallait tout ce parcours, tous ces pays, toutes ces rencontres, toutes ces évidences pour que réellement je sois moi-même. Après, je regrette pas du tout, je regrette rien. Je regrette pas d'avoir suivi parce que ça m'a énormément donné, ça m'a énormément nourri. Je regrette pas le monde que je suis allée, rencontrer. Mais là, aujourd'hui, j'ai besoin d'autre chose et je me pose un peu en France. Je dis pas que je ne bougerai plus jamais, j'y crois pas parce que j'ai quand même la bougeotte. Mais voilà, j'ai besoin de ça.
Laetitia Klotz, merci, merci beaucoup à toi.
Merci à toi, Alexandre.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Merci à tous pour votre écoute. Le podcast s'appelle Regarde ailleurs et donne la parole à ceux que je rencontre sur mon chemin de photographe voyageur, ceux que j'aime interviewer, ceux qui pour moi sont inspirants, partant de l'idée qu'une personne, que le parcours de vie d'une personne peut en inspirer beaucoup d'autres. J'espère que cette émission vous aura plu. N'hésitez pas à en retrouver d'autres sur toutes les plateformes de streaming en tapant Regarde ailleurs.